Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que ça serait bonjour. Ça serait peut-être pas aussi bon. Salut Mathieu. Pourquoi quatre fois bonjour? Tu sais, je te demande, trouve-moi une réponse aujourd'hui.
Parce que je pense que tu sais pas compter plus loin que 4.
Tout à fait. D'ailleurs, mon comptable a beaucoup de choses à me reprocher sur ma façon de compter. Bon, disons que ça... Quand c'est pour les dépenses, je peux compter très loin. C'est dans les revenus, cette colonne-là, j'ai de la difficulté à compter là-dedans. Bon, OK, on arrête de se moquer de moi-même. De toute façon, c'est pas toujours intéressant. Je vous souhaite donc une très belle journée. 13 novembre aujourd'hui, 316e journée de l'année. Ça a l'air de rien, là, mais dans 49 jours, on change d'année. Hein, on est en 2026, il reste 49 jours. Donc, avant le bye-bye, 49 jours, moins une heure. Et je dirais 42 jours avant Noël. Ça s'en vient vite. Ouais. Les décorations de Noël, est-ce que tu les as sorties, Mathieu?
Non, le sapin, c'est le 1er décembre.
Ouais, je suis un petit peu comme toi là-dessus. Et surtout que avec un chien à la maison qui est encore un peu fou, le sapin, je mets une clôture autour, c'est plus sage. Je le protège. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a Monique qui est avec nous. Monique Hiroac, salut!
Oui, bonjour.
Alors, on a une chronique aussi ce matin. On va parler de quoi ce matin?
On va parler de sommeil. Peut-être que ça pose des défis à certaines de nos auditrices ou de nos auditeurs. En tout cas, il y a des neurologues et des psychologues qui s'y intéressent. Et certains chercheurs proposent comme cadre, je dirais, idéal de se coucher et de se lever toujours à la même heure. Mmh. Alors, Catherine Anfield a rédigé un texte à cet égard qui a été publié dans la presse du 9 novembre dernier.
Bon, ben écoute, on va parler de ça. Puis il y a aussi Yvan Deslauriers qui va nous parler du temps qui passe, la différence entre le hockey et le vélo hein, dans nos perceptions historiques. On a notre chronique Parasport aujourd'hui avec Dominique Tremblay. Et j'ai une entrevue pour parler d'Images et Nations, qui est un festival de cinéma queer qui commence la semaine prochaine ici à Montréal. Alors, aujourd'hui, c'est encore du temps gris. Ben, c'est un petit peu le mois de novembre. Hein. C'est vrai que le mois de novembre, c'est toujours un mois qui est un peu plus gris que les autres. Alors, au Québec, on est autour du point de congélation aujourd'hui. Risque de précipitation, le mélange de neige et de pluie. C'est plus chaud en Atlantique, 5 à 6 degrés, avec des nuages. Et là aussi, il y a des précipitations, probablement plus de pluie. De la pluie, d'ailleurs, à Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse. Alors, c'est la même chose en Ontario. Il va pleuvoir aujourd'hui, 5 à 8 degrés. Et c'est du soleil dans les prairies. Ben, coudonc, toi, 6 à 10 degrés. On parle même de 16 degrés à Calgary. On s'en va à Calgary. Et puis, en Colombie-Britannique, c'est de la pluie sur la côte ouest et de la neige à l'intérieur des terres. Voilà, un petit résumé de notre météo. Alors, en ce 13 novembre, en 1947, André Gide obtient le prix Nobel de littérature. En 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare illégale la ségrégation dans les bus publics. Ah, parce que dans le temps, il fallait que les personnes noires s'installent à l'arrière du bus, non pas en avant, il fallait laisser la place aux personnes blanches. Ah, si je vous dis cacatoès, ça dit quelque chose, Monique, cacatoès, non, hein?
Un oiseau?
Non, ben peut-être. C'est une réplique de la célèbre pièce « La cantatrice chauve » d'Eugène Ionesco, qui est venue au monde en 1909. Et dont il s'est éteint le 28 mars 1994. C'est intéressant parce qu'il y avait ce week-end à Radio-Canada une émission qui s'appelle « Tout terrain », un reportage absolument génial de Danny Brown sur Eugène Ionesco. À Paris, au Théâtre La Huchette, on joue encore Rhinocéros et la cantatrice chauve. Et d'ailleurs, Rhinocéros était joué au Théâtre de Denis Pelletier. Très belle adaptation d'ailleurs. Ah. Alors, cacatoès.
Monique a raison, c'est un oiseau.
Ben oui, c'est un oiseau. Ben oui. Mais je le dis, ça c'est surtout pour une réplique qui revient dans « La cantatrice chauve ». 1955, c'est l'anniversaire de naissance, on lui souhaite bon anniversaire, de Whoopi Goldberg, qui a 70 ans aujourd'hui. Quand même! Ah, elle a toujours l'air toujours très jeune et toujours très, très animée. Donc, on se rappelle de ses rôles dans « Sister Act » et « La couleur pourpre ». Et puis aujourd'hui, un anniversaire beaucoup moins réjouissant. On va en parler pas mal dans les actualités. Alors, en 2015, une série d'attentats terroristes frappe Paris et Saint-Denis, notamment au bar Le Bataclan. Ces attentats ont causé la mort de 130 personnes. Puis si on ajoute les personnes qui se sont enlevées la vie depuis, c'est 133 personnes. Oh là là. Ouais. Bon, ben on s'en va en musique.
veille à passer la nuit à t'attendre. Nos vies qui changent laissent des séquelles autour profond de mon existence. Mais l'aube brille, je me libère des nœuds, des limbes bleus éphémères qui livrent mes adieux au silence. Car si tu quittes, je sais, tu trouveras une autre, et t'en sais pas, tu danseras. Et si mes larmes deviennent la fin, qu'on lève vers à mon chagrin, de vivre l'ivresse de ta magie, des sorts lancés au fil des vies que tu vis chaque fois que une autre histoire racontée par un oiseau mort. Je rêve d'un moment où mon cœur battrait moins fort. Je laisse des cris heurter le toit d'une maison qui s'élève là-bas. Me secouer au fil du temps. Car si tu quittes, je sais, tu trouveras une autre qui t'en sait pas, tu danseras. Et si mes larmes deviennent la fin, qu'on les refaire à mon chagrin, de vivre l'ivresse de ta magie, des sorts lancés au fil des vies que tu ruines.
La chanson « Mélancolie » de Cœur de Pirate.
Alors, si vous êtes usager du transport en commun à Montréal, c'est les hauts et les bas. Alors, après avoir annoncé la fin de la grève du personnel d'entretien hier, donc le service a recommencé hier et va se poursuivre jusqu'à demain, bien, imaginez-vous que les employés qui font les chauffeurs, chauffeuses et opérateurs, opératrices de métro vont faire la grève le samedi matin jusqu'à lundi matin, 4 heures à 4 heures, et il n'y aura aucun service. Parce que le tribunal du travail a décidé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des services essentiels ce week-end. Alors, c'est ça qui se passe, à moins qu'il y ait une entente d'ici samedi. C'est pas facile. Alors, avec la chute de neige, la Presse Plus ce matin, la chute des températures, l'arrivée de la neige à Montréal, la survie des personnes vivant dans les campements de sans-abri devient de plus en plus précaire. Des travailleurs sociaux et des policiers du service de police de la Ville de Montréal interviennent régulièrement auprès des campeurs pour faire de la prévention concernant les risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone, un danger mortel et difficile à détecter. Le service de sécurité d'incendie de Montréal confirme d'ailleurs que le nombre d'appels pour des feux dans des campements augmente avec le froid. Les campeurs doivent faire preuve d'ingéniosité, comme René Marquis, qui est à Montréal-Nord et qui utilise un poêle fait maison dans sa tente. Il rappelle cependant qu'on se débrouille du mieux qu'on peut. Les intervenants sont conscients qu'il est difficile d'interdire le chauffage, mais ils multiplient les conseils pour éviter le pire. Comme le rappelle Rap Jeunesse, la meilleure prévention demeurerait d'offrir à ces personnes une place pour dormir au chaud. D'ailleurs, un autre article qui suit donc ce dossier de la presse, l'École de technologie supérieure, l'ETS, a mis au point une solution simple et sécuritaire pour les personnes en situation d'itinérance. Une équipe de l'école a imaginé un réchaud à bois fabriqué uniquement à partir de simples boîtes de conserve. Ce poêle low-tech est facile à reproduire avec un minimum d'outils, permettant aux personnes à la rue de cuisiner et de se réchauffer de façon efficace et sans danger. Les chercheurs ont travaillé en collaboration avec le réseau d'aide des personnes seules et itinérantes de Montréal pour assurer que leur conception réponde aux besoins réels et respecte les consignes de sécurité. Testé avec succès, ce réchaud fait maison peut faire bouillir de l'eau en seulement quelques minutes et vise à prévenir les incendies et les intoxications dans les campements. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, on revient là-dessus dans la Presse Plus. Donc, le 13 novembre 2025 marque le 10e anniversaire des attentats djihadistes qui ont frappé Paris, coûtant la vie à 130 personnes. 10 ans après le carnage, de nombreuses personnes survivantes et proches des victimes du Bataclan témoignent d'une reconstruction inachevée. Christophe Naudin, professeur d'histoire qui s'était réfugié dans un KGB au Bataclan, explique n'avoir jamais retrouvé la paix, souffrant d'hypervigilance et d'une sensation de claustrophobie chronique. Il regrette que cette tragédie soit en voie d'être oubliée par la société, donnant l'impression que les victimes sont mises dans les poubelles de l'histoire. Pour Patricia Correa, qui a perdu sa fille unique, le deuil n'a pas permis d'apaisement. Elle affirme avoir perdu un enfant, qu'avoir perdu un enfant laisse une plaie ouverte qui jamais ne se referme, le procès du 13 novembre n'ayant pu soulager son immense douleur. Cette quête de guérison est ardue et parfois perdue. Tragiquement, 3 personnes survivantes souffrant de blessures psychiques, dont Fred DeWild, un rescapé du Bataclan, ont mis fin à leur jour depuis 2015, portant le nombre de victimes à 133. Une étude récente menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, révèle que malgré une apparente reprise de la vie normale, 57 % des Français continuent d'identifier le sentiment de peur comme la principale conséquence des attentats, une proportion stable depuis les faits. Cette peur se traduit notamment par une méfiance accrue dans les lieux publics. Cependant, un sentiment de fatalité et de résilience est bien présent. Beaucoup refusent de céder à la crainte, adoptant une attitude résumée par les parents d'un jeune homme. « Si tu as peur, c'est les terroristes qui ont gagné. » Mais malgré cette volonté de ne pas plier, les conséquences sont concrètes. Le plan Vigipirate n'a jamais été abaissé à son niveau minimal depuis janvier 2015 et la jeunesse française a grandi avec des exercices d'alerte et d'intrusion dans les écoles.
Yeah. marche à côté de moi. J'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon temps. Hey, oh, oh, ma vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Hey, hey, oh, 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 mon cœur à côté de moi. J'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon temps.
Vincent Vallière et sa chanson « Je marche comme on tombe ».
Mais on va tomber, non, on va pas tomber, on va juste aller à la rencontre de Monique Kirouac. Salut Monique!
Oui, faut pas tomber de sommeil non plus. Hein?
Non. Mais c'est intéressant de parler de sommeil parce que pour beaucoup de personnes, c'est un défi de dormir. Et on sait que quand on ne dort pas, ben c'est pas bon pour la santé.
Oui, ou de mal dormir.
Mal dormir, oui.
Alors voyons quels sont les bienfaits de se coucher et de se lever toujours à la même heure. Et ce, en 5 points. Il faut d'abord dire que tous les êtres vivants fonctionnent selon une certaine régularité et les humains, bien sûr, n'y font pas exception. Alors, premier point, meilleure synchronisation. C'est le point essentiel à retenir est le suivant. Le respect d'un horaire de sommeil régulier favorise un bon rythme veille-sommeil. En d'autres mots, ça facilite l'endormissement le soir, le maintien du sommeil la nuit et la vigilance pendant la journée. Ce rythme veille-sommeil est régulé par 2 choses. D'abord, par la pression de sommeil. Plus on passe d'heures éveillées, ben plus on va s'endormir. On peut comparer ça, Denis Martin, à un sablier. Le soir, ben le sablier, il est vide. On est fatigué. Le deuxième élément, ben c'est la composante circadienne, c'est-à-dire notre propension à l'éveil. Cette composante, ben elle est régulée par notre horloge biologique interne, qui dépend entre autres de la lumière. Le deuxième point, le fait d'aller se coucher et de se réveiller à la même heure, ben ça permet à notre système de mieux se synchroniser avec notre horloge biologique. Plus on avance en âge, ben plus cet horaire de sommeil régulier est important. Pourquoi? Ben parce que l'horloge biologique devient moins efficace en vieillissant. Les gens ont alors tendance à s'endormir un peu plus dans la journée, à s'éveiller plus souvent dans la nuit. On a d'autant plus besoin d'avoir des repères constants. Le cycle circadien régule non seulement le sommeil, mais aussi la température corporelle, la sécrétion d'hormones, dont celle de la faim, et même la régulation du sucre dans le sang. Des études sérieuses ont montré que les gens qui ne comblent pas leurs besoins de sommeil sont carrément plus à risque de souffrir de diabète.
Ah bon?
Troisième
et de souffrir
point...
aussi de mauvaise humeur, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Ouais.
Oui, oui. Mais ça, c'est peut-être pas chronique, comme le diabète. Le troisième point, c'est l'insomnie. D'ailleurs, j'avais un ami qui disait que la mauvaise humeur, c'est un luxe qu'on n'imposait pas aux autres.
Ah, c'est bien ça.
Oui. Alors, passons au troisième point, l'insomnie. Avec avoir des heures de sommeil irrégulières, c'est aussi courir le risque d'avoir un jour un trouble du sommeil. Les personnes qui souffrent d'insomnie à un moment donné perdent le contrôle de leur horaire. Alors, ils ont tendance à vouloir reprendre le sommeil en dormant plus tard le matin, puis à s'endormir plus tard le soir suivant, puis à se coucher trop tôt le lendemain, et ainsi de suite. On est dans un truc infernal, quoi. Dans le traitement de l'insomnie, on insiste sur l'importance de se lever à la même heure le matin, peu importe la nuit qu'on vient de passer. C'est pas toujours facile à mettre en application, mais c'est vraiment ce qui va permettre de synchroniser les horaires de veille et de sommeil. Quatrième point, les besoins de sommeil. C'est bien beau avoir un horaire de sommeil régulier, mais encore faut-il qu'il corresponde à nos besoins. Le besoin de sommeil chez l'humain varie généralement entre 7 et 9 heures. Si notre organisme a besoin de 8 heures, mais que nous restons au lit 6 heures, ben c'est pas vraiment bon. Si à l'inverse, notre besoin de sommeil est de 7 heures, mais que nous passons 9 heures au lit tous les jours, ben c'est pas bon non plus. Chaque personne a aussi un chronotype qui lui est propre. Certains ont naturellement tendance à se coucher et à se lever tard, d'autres à se coucher et à se lever tôt. Encore là, mieux vaut écouter ce que son corps réclame dans la mesure du possible. Cinquième point, on parle de la récupération. C'est pas toujours possible de maintenir un horaire de sommeil régulier. On peut penser aux nouveaux parents, ouf, l'enfer, aux étudiants en fin de session, aux soirées entre amis qui s'étirent et bien sûr aux gens qui doivent composer avec des horaires de travail irréguliers. Ben, dans ce cas, il vaut mieux récupérer, on peut se poser la question, en fait, vaut-il mieux récupérer le sommeil lorsqu'on en a manqué? Ben, il y a certainement des bienfaits à le faire. On peut, par exemple, faire une petite sieste d'une trentaine de minutes, idéalement avant 15 heures, pour ne pas perturber l'heure du coucher. Chez les personnes âgées, cette petite sieste de mi-journée peut être très bénéfique pour mieux profiter de l'après-midi, se coucher un petit peu plus tard et se lever un petit peu plus tard le lendemain. On peut se poser la question maintenant, et la grasse matinée? Ben, si on ne souffre pas d'insomnie, on a tous droit à ce petit cadeau-là une fois de temps en temps, si on peut se le permettre. Il est possible de récupérer une partie du sommeil perdu, mais pas de mettre du sommeil en banque. Autre point à noter, l'organisme n'a pas besoin de reprendre le nombre exact d'heures de sommeil perdu la veille.
Ah bon?
Il faut éviter de faire ce calcul arithmétique parce que le sommeil s'auto-régule. Au lendemain d'une mauvaise nuit, le cerveau s'offrira davantage de sommeil profond pour récupérer. Ce système de compensation est plus efficace quand on est jeune et il ne permet pas de corriger les déficits métaboliques qui s'opèrent lorsqu'on manque de sommeil. Les travaux de l'équipe du neurologue Tan Dang Vu ont montré que faire de l'exercice physique permet aussi de compenser les effets du manque de sommeil sur la mémoire. Que dire des ados maintenant? Oh là là! Si on les laisse aller, ben les adolescents ont tendance à se coucher tard et à se lever tard. Leur cycle est naturellement décalé, même si on peut tricher un peu, en les habituant à se coucher à des heures régulières. Le week-end, bien des ados ont tendance à dormir jusqu'en fin de matinée et plus encore. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ce qu'on veut éviter, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'endormir le dimanche soir. Et pour prévenir ce problème, on conseille aux adolescents de ne pas laisser leur heure du lever du week-end dépasser plus de 90 minutes leur heure de réveil habituelle en semaine. Je conclurai en vous parlant de la lumière bleue qui perturberait le sommeil. Hein, on pense à la télé, aux tablettes, à l'ordinateur, au téléphone cellulaire. Ça fait 20 ans que les LED émettent leur spectre lumineux, dont leur fameux pic bleu. Et ça fait 10 ans que l'on craint que cette couleur, perçue par notre cerveau comme celle de la lumière du jour, bloque la production de mélatonine, l'hormone de régulation du sommeil, et bouscule par le fait même notre endormissement. Mais c'est peut-être une fausse piste, selon Serena Bauduco, qui est une chercheuse en psychologie à l'Université d'Örebro en Suède. Elle étudie l'impact des technologies sur le sommeil des adolescents. C'est un peu un contre-pied là, de tout ce qu'on entend. Alors, elle nous dit que les écrans jouent un rôle, mais ce n'est pas celui que l'on imaginait. Cette histoire de lumière bleue a détourné notre attention et nous a empêchés d'explorer d'autres mécanismes. Certains résultats, par exemple, pointent le problème du déplacement du sommeil, c'est-à-dire le décalage de l'heure du coucher à cause de l'utilisation des écrans. Plusieurs équipes ont récemment montré que l'utilisation d'un écran entre le moment où l'envie de dormir se manifeste et ben, ça a un impact très important. Elle est environ une heure de retard à l'endormissement. Donc, on perd une heure de sommeil. Et ce serait un élément que l'on ne traite pas habituellement lorsqu'on parle de cette lumière bleue qui pourrait donc nous empêcher de dormir. C'est la fréquentation de ces outils qui nous empêche de dormir. Mmh. Alors voilà, j'espère que vous dormirez mieux la nuit prochaine.
Sur mes deux oreilles. Mais c'est fou, hein? Nous, on a besoin à peu près autour de entre 7 et 9 heures. Puis j'en parle souvent, mais moi, mon chien, il dort 20 heures par jour, pratiquement.
Oh mon Dieu!
Qu'est-ce que ça dort, un animal? Je trouve ça fabuleux. Il s'installe, il se couche, puis il dort. C'est beau, hein?
On va
se reparler après la pause, parce qu'on a des brèves et Yvan qui va se joindre à nous. Moi, je vais prendre quelques... Je pense qu'il me reste assez de temps pour vous parler de cette histoire. 10 ans, donc, après les attentats de Paris, l'histoire de Pierre et Myriam Cabon témoigne d'une résilience hors du commun. Grièvement blessé au Bataclan, Pierre est devenu paraplégique, mais ça n'a pas arrêté la passion du couple pour les grands espaces. Peu après l'épreuve, le couple a décidé de reprendre le fil de leur vie et de partir à la conquête du monde. Ils ont visité une trentaine de pays, atteignant le Machu Picchu et parcourant le Canada en train, malgré les défis du fauteuil roulant. C'est en se heurtant au manque d'informations sur le tourisme accessible que le couple a eu une nouvelle idée. En 2018, ils ont lancé Wheel World, une entreprise visant à documenter les escapades et à offrir des conseils pratiques aux personnes à mobilité réduite. Leur démarche est un véritable passage de relais. Leur histoire a inspiré d'autres familles, comme les Dureux, dont la fille est atteinte de paralysie cérébrale, prouvant que même un seul témoignage peut motiver des gens à croquer la vie différente. Bien oui, alors c'est un article là, qui était tiré de Radio-Canada.ca en ce 10e anniversaire des attentats terroristes sur Paris. Après la pause, on va rejoindre Yvan Deslauriers et on continue avec Monique Kerouac pour parler donc de tout plein de ces petites chroniques intéressantes. Puis on va aussi avoir les parasports à 10h30 avec Dominique Tremblay. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Alors, on retrouve Monique Kerouac qui vient se joindre à nous, Yvan Deslauriers. Salut Yvan!
Bonjour Denis Martin.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Ah, oui, oui. Mm-hmm. Écoute, on va aller tout de suite de ton côté parce que le temps qui passe, on va parler de la différence entre le hockey et le vélo.
Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Denis Martin, de, je sais pas moi, faire quelque chose avec un ami, une connaissance, quelque chose, puis de lui montrer un peu comment faire, puis à un moment donné, cette personne-là te dépasse? Ah. Vraiment, franchement, c'est ce qui arrive.
Oui, ça arrive, oui.
Ça arrive, hein?
Ouais.
Moi, j'ai un souvenir très clair avec mon frère. Je lui ai montré comment jouer au tennis de table.
Ah.
Il est devenu vraiment très bon, à tel point que je n'ai plus jamais été capable de le battre dans un match. Puis Dieu sait si on s'essaye même encore aujourd'hui. Puis on fait des très bons échanges, mais quand vient le temps de jouer, ça marche plus. Je suis plus capable, il est vraiment devant moi.
Okay.
Alors, le texte que je vais vous présenter, c'est un peu ça. Puis en même temps, c'est un coup de chapeau d'un papa à son fils. Alors, on va lire ça ensemble. C'est Patrick Lagacé qui a écrit ça dans la presse du 19 octobre. Ça, c'est intitulé « La différence entre le hockey et le vélo ». Et il commence en disant, vous connaissez cette expression, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et c'est vrai, ça ne s'oublie pas, le vélo.
Non.
Tu remontes dessus après des années, après des décennies, et ton corps se souvient des mouvements simultanés qu'il faut accomplir pour avancer et rester en équilibre.
Ouais, j'ai ça, à la différence que quand on a un certain âge, parfois quand on retourne faire du vélo trop longtemps, il y a des muscles aussi qu'on n'avait pas l'idée qui existaient, qu'on découvre, dont on découvre l'existence.
Oui, ça aussi. Mais de faire du vélo, puis c'est assez spécial. J'ai déjà lu des articles dans le passé là-dessus. Il y a des femmes qui viennent de je parle de vraiment des dames qui viennent de d'autres pays dans le monde où les dames n'ont pas le droit de faire du vélo. Et une des activités d'initiation ici, d'intégration à la vie au Québec, c'est d'apprendre à faire du vélo. Et la joie d'apprendre à être libre sur un vélo, c'est indescriptible, vraiment. Alors, à partir de ce moment-là, on sait toujours comment faire du vélo, de rester en équilibre, de faire ces gestes si simples quand le corps sait et si complexe quand il ne le sait pas. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On dit ça des tâches avec lesquelles on renoue instinctivement. Le corps et l'esprit ont une mémoire musculaire neuronale. Eh bien, il aimerait nous dire, en ce dimanche plein de soleil, ça c'est avant la neige sûrement, que le hockey, ce n'est pas comme le vélo.
Ah.
Il nous dit, j'ai eu une idée de fou à la fin de l'été dernier, m'inscrire à une ligue de garage avec mon fils. Pour lui, un retour au jeu après 3 ans de, entre guillemets, retraite. Pour moi, un retour au jeu après 38 ans de retraite. Quand je parle de retour au jeu, j'exclus les sorties hivernales dans les parcs de la ville. Je parle de hockey organisé avec l'équipement, des arbitres et tout et tout. Tout au long de l'enfance de l'héritier, puis de son adolescence, j'ai enfilé les patins pour aller jouer avec lui à la patinoire. Je parle de ces jours de moins en moins nombreux où il fait assez froid pour patiner. Des matchs improvisés entre étrangers. Oui, ces matchs-là, on met les bâtons au milieu, un joueur les balance de part et d'autre de la glace, puis boum, les équipes sont artisanalement composées. Un beau flash, les adultes qui laissent l'enfant de 11 ans avec le chandail des Kings de Los Angeles aller marquer des buts quand il se présentait en zone adverse. Je me débrouillais, pour ainsi dire, encore assez rapide, assez vif, expérimenté pour ne pas m'embarrasser à outrance. Je me débrouillais, mais je me sentais quand même décliné. Un hiver, peut-être l'hiver 2017 ou 2018, le petit et moi étions allés jouer, juste lui et moi. On jouait à s'enlever la rondelle. Et jusqu'à cet hiver-là, je parvenais à le dominer, à le contrôler. Grâce à la différence de force, grâce à l'expérience musculaire et neuronale, grâce à ces années à jouer jadis. Puis en février de cette année-là, sur une patinoire d'Outremont, j'ai réalisé dans le froid mordant que c'était le dernier hiver où le père était meilleur que le fils. Il était plus vif, plus fort que jamais, plus habile. Et ce soir-là, en quittant la glace, je me souviens m'être dit, l'hiver prochain, c'est lui qui va te bouffer. C'est une loi immuable de la nature. Il y a une vigueur physique propre à la jeunesse qui est imparable. Je ne parle pas d'être en forme. Je suis en forme. Je suis plus en forme qu'à 33 ans, il y a 20 ans. Je parle d'autre chose. D'explosion musculaire, de coordination oculo-manuelle. J'avais tellement hâte de lire ce mot-là. Je parle du corps qui obéit immédiatement à l'esprit, à l'instinct, au réflexe. Avancer la cassette jusqu'au match du samedi soir dans cette ligue de garage. Des vieux en majorité, je veux dire des plus de 40 ans. Quelques jeunesses, comme mon fils. quelques hommes qui sont sur le point de s'inscrire sur la liste d'attente d'un médecin gériatre des plus de 50 ans, comme moi. Et je pensais, avant le premier match, que le hockey serait comme le vélo, que ça reviendrait tout naturellement, que reviendrait l'époque où je jouais tout le temps, partout, dans la rue, à l'aréna, au parc, l'époque où je revenais de la patinoire à la maison, les pieds gelés, pour dîner, et que je repartais, les pieds encore gelés, pour jouer à la patinoire du parc Marc-Corel-Fortin, encore et encore. Que reviendrait l'époque où j'étais bon? Ouf! Quel réveil brutal! Réveil le plus souvent allongé de tout mon long. Imaginez un jeu vidéo détraqué. Vous maniez la manette pour faire bouger votre joueur, mais il y a un décalage entre la manette et votre avatar. Ce que je ressentais, ce que mon cerveau savait faire, mon corps ne savait plus le faire. Ou, en tout cas, plus aussi rapidement. Il y avait 1 million d'années-lumière entre ce que je voulais faire et ce que mon corps faisait. Je me faisais soutirer la rondelle dans l'intervalle. Réception d'une passe, départ en explosion, pivoter, changer de direction. Tout était lent, compliqué, lourdeau. Mon fils qui se couche à 2 heures du matin, qui se lève à 11 heures, qui carbure à une solide diète de Doritos, de Fruit Loops et d'ailes de poulet, pour qui travailler son cardio est une notion qui n'existe que sur un bixi électrique, eh bien, il volait sur la glace. Son corps faisait exactement ce que son cerveau commandait. Changement de direction, passe du revers, tir voilé, tout coulait de source. À un point du match, il a déjoint un défenseur en laissant traîner la rondelle derrière lui pour la faire dévier avec son patin en la projetant devant lui tout en contournant le défenseur. Il n'a pas marqué. Pas ce coup-là. Il a marqué plus tard dans le match. Dangereux à chaque présence. Et pas juste dangereux, bon sang. Beau, salement beau, dans la fluidité du geste, dans la facilité d'exécution. L'impétueuse beauté de la jeunesse. Et surtout, si beau dans son grand sourire au retour au banc pour ce court repos, nous jouons à 2 trios, les vrais vont comprendre, avant de rembarquer. Et juste pour voir ce sourire, l'humiliation que je vis à chaque match en bousillant des gestes que je faisais jadis les yeux fermés, en m'étendant par exemple de tout mon long en tentant de pivoter, en vaut la peine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Le neuf pousse sur le vieux et si jeunesse savait-elle, mangerait moins de Doritos et ne tiendrait rien pour acquis. Surtout pas la beauté de la fluidité d'un slap shot décoché par une musculature encore couverte par la garantie du fabricant. Alors, c'était un texte tout en humilité et en extase de Patrick Lagacé sur le fait que le hockey puis le vélo, c'est pas pareil. On peut pas recommencer à jouer au hockey comme on fait du vélo.
Mais j'ai jamais joué au hockey, fait que ça va régler le problème pour moi. Les Doritos, ah mon Dieu. Des fois, là, on regarde ces belles jeunesses-là, je dis, ah mon Dieu, il me semble qu'on devrait pas manger ça.
On a déjà été jeunes, nous aussi.
Oui, je dirais pas ce que je mangeais quand j'étais jeune, mais c'est un peu honteux. Allez, on fait une petite pause musicale, puis on revient à tous les deux, Monique et Yvan.
Tu sais, encore hier soir, je me demandais si parfois tu penses à ce que t'avais, ou même un peu à ce que tu avais. Je garde le sang-froid, j'écris dans mes notes que je ne peux. À haute voix quand tu es là, car j'ai bien appris que contre toi, c'est perdu d'avance.
je me revois assise en silence encore une fois, terrifié par le son de ta voix et deux yeux brillants qui ne comprennent pas. Et au fil des saisons, sous ce toit il y a plus de maison, les murs sont froids, les briques tombent comme tout.
La chanson indemne d'Alicia Moffett.
On retourne à Yvan et à Monique. Pendant la chanson, Mathieu et moi, on a échangé sur nos petits... nos travers alimentaires. Alors moi, je vais m'assumer. J'adore les bonnes chips, sel et vinaigre. Mathieu, qu'est-ce que tu manges, toi?
Quand j'en achète, je vais acheter des Haribo qui sont une version des Doritos.
Ouais. Ah, ben là, je vous mets sur la sellette... Monique, ton petit péché mignon?
je n'en mange plus depuis des années, des Doritos ou des chips ou je ne sais pas quoi. Mais plus jeune, j'aimais bien les Tidbits. Là.
Ah oui.
Ces petites boîtes bleues dans lesquelles il y avait des petits bâtons de fromage, mais qui n'étaient pas, excusez l'expression, salauds. Comme les bâtons de fromage là, qui nous tachent les doigts. Là.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Puis Yvan, ah, je vais mettre ça ben
moi, ici. Moi, j'ai eu un petit problème au cœur dernièrement. Alors, on m'a conseillé de ne pas manger de choses avec du sel. Alors, quand je faiblis et que je dois succomber, je prends une ou deux chips, je les mets dans ma bouche et je pense que je les laisse fondre.
Ah.
J'ai le besoin de goûter complètement qu'est-ce que c'est une chip, oui. Mais je suis capable d'arrêter à deux maintenant.
Ah mon Dieu, mais ça, pouvoir en dire autant. Bon, cela dit, on va arrêter de parler de bouffe, on va parler de quelques brèves. Je pense que je vais commencer avec Monique, des chercheurs à la rencontre des citoyens, le temps d'une nuit à Montréal.
Oui, tout à fait. Alors, prenez note, dans la nuit ou la soirée plutôt, du 14 novembre, il y a des chercheurs qui vont descendre de leur tour d'ivoire pour rencontrer le public au Biodôme et au Planétarium de Montréal. C'est la 6e édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs. Ils s'inscriront dans un appel à la résistance. Alors, mobilité durable, droit de manifester, réutilisation d'espaces vacants contaminés, recyclage d'objets sont au programme de cette soirée qui se déroulera de 7h à minuit. Alors, ce qu'on essaie de faire avec la Nuit des chercheurs, c'est de déconstruire un peu le discours scientifique pour que le public se sente vraiment à l'aise, pour que le chercheur aussi puisse avoir des discussions avec les gens. Alors, le menu propose des échanges entre le monde scientifique, le monde des arts et le milieu communautaire sur différents thèmes et sous différentes formes. Il y aura des tables rondes, des expositions, un bain de forêt, mais intérieur, dans les écosystèmes du biodôme. Et pour les curieux, ben 15 équipes de scientifiques tiendront des kiosques pour permettre au public de découvrir leurs travaux. Malheureusement, ce n'est pas gratuit. Il faut faire la réservation des billets en ligne. En saisissant Nuit des chercheuses et des chercheurs dans votre moteur de recherche, vous arriverez sur le site de l'Espace de la vie et vous pourrez là réserver vos billets. Alors, c'est un rendez-vous le 14 novembre de 7h à minuit au Biodôme et au Planétarium de Montréal.
On apportera nos sacs de Doritos aussi. Bon, OK, j'arrive.
Oui.
Oui, Yvan.
Je sens une obsession.
J'aime tellement pas les Doritos. Alors, j'avoue que c'est pas ça. Moi, c'est les chips au vinaigre. Allons-y.
plusieurs de mes brèves sont tirées aujourd'hui de l'infolettre de Mémo Québec pour le mois de novembre 2025. Mémo Québec, c'est moi les pinières et Motricité Québec. Et j'ai noté particulièrement cette rencontre virtuelle le 25 novembre qui vise l'accompagnement pour les proches. Alors, si vous êtes vous-même proche aidant ou proche aidante d'une personne ayant une lésion à la moelle épinière, venez échanger, partager et découvrir des ressources avec d'autres personnes vivant une réalité semblable. D'un autre côté, si vous avez un ou une conjointe, parent, ami ou toute autre personne de confiance qui vous accompagne au quotidien, si vous êtes touché par un problème de moelle épinière, offrez-lui l'occasion d'échanger, de partager et de découvrir des ressources avec d'autres personnes qui vivent une réalité semblable. Alors, le rendez-vous, c'est mardi 25 novembre. Donc, on est aujourd'hui le 13, donc c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine suivante. Donc, 25 novembre, de 18h30 à 20h, via Teams, il y a une invitation à rejoindre la rencontre qui va être envoyée suite à l'inscription. Et l'objectif, c'est de créer un espace convivial pour les proches, sans jugement, pour se soutenir et s'informer. Et quand on va sur le site de Mémo Québec, il y a un bouton pour s'inscrire à cette activité-là.
Monique, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Vraiment, je voulais pas. Je sais pas trop comment m'y prendre. Alors oui, pour bien s'excuser, c'est quoi la longueur idéale des mots?
Alors, il faut pas lésiner, Denis Martin.
Okay.
Je suis vraiment désolée ou je suis sincèrement désolée agiront mieux qu'un simple pardon ou excuse-moi. D'après une étude britannique qui a méthodiquement comparé 50 types d'excuses différents en comptant les mots. Plus c'est long, donc plus ça marche. Le message d'excuse paraît d'autant plus crédible qu'il semble plus coûteux cognitivement pour celui qui le formule, soulignant l'effort que nous sommes prêts à consentir pour exprimer notre remords. Un exemple d'un phénomène plus général pour les chercheurs, l'iconicité dynamique. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le choix lexical qui est autant influencé par l'intention que l'on souhaite exprimer à travers un mot que par son sens. Mais on n'a pas besoin de surenchère. L'étude montre qu'utiliser des mots peu fréquents n'a pas d'influence, mais la longueur de l'excuse, elle, a une influence. Donc, soyez-en conscients.
Je vous demande pardon. Alors, on continue. Yvan, t'as
Je vous demande vraiment pardon.
Je vous demande vraiment, oui, d'accord. Yvan.
On reste du côté de moelle épinière et motricité Québec. Ils offrent une visite guidée du Musée des beaux-arts de Montréal. Ça aura lieu dimanche, le 23 novembre, de 14h à 17h. C'est gratuit. Et on se retrouve pour une sortie au musée. C'est au 2200, rue Crescent à Montréal. Il faut prévoir d'arriver à 13h30 pour la visite qui commence à 14h pour s'assurer de débuter la visite à l'heure prévue. Les places sont limitées. Il faut imaginer que plusieurs personnes ont des fauteuils roulants. Donc, il faut réserver. Et pour réserver, vous allez sur le site de Mémo Québec et vous allez dans le calendrier. Et là, il y a une possibilité de réserver une place. Mais c'est gratuit. Et moi, je suis pas un fervent des musées, mais à toutes les fois que j'y vais, je ressors de là avec une certaine paix dans l'âme. Mmh. C'est toujours beau. Alors, c'est une invitation.
Ben oui. Alors, et nous, on s'en va faire une petite capsule linguistique. Acheter du temps.
Oui, alors c'est une expression qui a été soulevée par Guy Bertrand, qui a publié Le français au micro, chronique de langue. Alors il a entendu la phrase suivante sur les ondes de Radio-Canada. Monsieur Trudeau achète du temps. Alors acheter du temps puis sauver du temps, ben vous le devinez, Denis Martin, ce sont des calques de l'anglais. Mmh. Et il y a une solution bien facile. Elles peuvent être remplacées par gagner du temps. Mmh. Alors gagner du temps dans son sens le plus courant, c'est faire une économie de temps. Par exemple, on va dire je pars demain matin et j'ai déjà fait ma valise pour gagner du temps. Gagner du temps, c'est aussi obtenir l'avantage de disposer d'un temps plus long en reportant une échéance. Alors, au lieu de dire qu'un avocat veut repousser la date d'un procès pour acheter un peu de temps, ben, on choisira plutôt de dire qu'il veut repousser la date du procès pour gagner un peu de temps. Et on aurait pu aussi dire, donc, que M. Trudeau tente de gagner du temps en faisant, je ne sais pas, quelle pirouette, mais c'était pas acheté, mais bien gagné. Ça coûte moins cher.
Ouais. Mais de toute façon, maintenant, je pense qu'il fait des pirouettes pour une certaine chanteuse, mais bon, ça, c'est autre chose.
Oh, c'est autre chose,
Yvan,
mais peut-être a-t-il suffisamment de temps, justement, pour...
Parce que il y a l'Occasion Tire aussi avant. Bon, voilà. Yvan, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec
nous? Oui, je termine avec une nouvelle que j'ai trouvée sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Ils proposent aux membres et à ceux qui veulent se joindre à eux une soirée à l'auberge avec l'artiste-conteur Stéphane Tessier et Catherine Planet, qui est violoniste. Ça va se passer le 13 décembre. Oui, oui, c'est le mois prochain, ça, ouais. 13 décembre.
Ben oui, déjà.
De 17h à 22h, ça coûte 35$, buffet et bûche de Noël inclus. Apportez votre vin. C'est au centre communautaire du monastère, c'est au 4449 rue Berry. Et le temps d'une soirée, le public est invité à entendre des contes et des légendes traditionnelles. Le tout sera animé par l'aubergiste, le bourru. Son épouse, Annette, fera aller son archet sur son violon afin d'apporter de l'agrément et des airs traditionnels. Venez passer une soirée à l'ancienne, au menu des histoires, dont des vraies menteries. De la musique pour se dégourdir les jarrets. Alors, il faut s'inscrire auprès de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. C'est tout simple. Vous allez sur le site et vous avez le lien. Alors, préparez-vous pour une bonne soirée du temps des fêtes en plein milieu du mois de décembre.
C'est incroyable. Je vais terminer cette partie-là à 24 minutes. On est là. Merci beaucoup, Yvan et Monique. À la prochaine.
À la prochaine.
Ah, ben, comme Justin Trudeau, on ne perd pas notre temps.
J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina ho, tani nani nani na ho. Anina nani nina ho, tani nani nani na ho. Anina nani nina ho, tani nani nani na ho.
Ta
Ninao, une chanson de Gims.
Oui, j'ai moffé ma blague tantôt. Je voulais dire que depuis Sophie Grégoire Trudeau, Justin Trudeau n'a pas perdu son temps. Maintenant, il est avec Katy Perry. Bon, OK, c'était une blague. Dans Le Devoir ce matin, une enquête révèle d'importantes lacunes qualifiées de trous noirs dans les services de santé mentale des prisons provinciales du Québec. Le problème est immense. Les troubles sévères touchent 15 % des détenus, soit 5 fois plus que la population générale, mais plus de 60 % des établissements n'ont aucun psychiatre attitré. Seulement 5 des 16 centres de détention bénéficient de cliniques psychiatriques régulières. Des psychiatres signalent qu'il peut s'écouler plusieurs mois avant qu'un patient en état de psychose avancée ne soit finalement pris en charge, souvent dans un état critique. Ce déséquilibre, donc, où la logique de sécurité publique prime sur les besoins cliniques, mène à des conséquences dramatiques. Voilà, donc, un article à lire dans Le Devoir ce matin. Après la pause, on va parler de parasport, puis on va parler aussi Imagination, un festival de films queer. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix, bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière, des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, io recuerdo todo.
La chanson « Je pardonne » de Zaz.
Ouais, « Je pardonne, je te pardonne, je me pardonne, mais je me souviens de tout. Hein, » si on... Voilà. Et on va aller rejoindre Dominique Tremblay. Salut Dominique!
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien, très bien. Je suis toujours content de qu'on se parle comme ça les jeudis.
Alors, oui, c'est fun. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, d'ailleurs.
Ben oui, c'est chose qui arrive. Hein?
Oui.
J'anime plutôt en remplacement de temps à autre. On va faire un petit retour sur les derniers jours des Jeux para-américains, para-panaméricains de la jeunesse.
De la jeunesse, c'était pour les athlètes qui sont plus jeunes que 23 ans. La compétition s'est terminée dimanche. Ça se déroulait à Santiago, au Chili. Le Canada a terminé en 10e place au classement des médailles, avec 6 médailles d'or et un grand total de 13 médailles. C'est quand même très bien parce que le Canada était représenté par seulement 38 athlètes dans 5 sports. Au total, les Jeux, il y avait 13 sports que les athlètes peuvent compétir, mais le Canada était seulement dans 5. Le Québec était représenté par 3 athlètes. Simon Devries de Gatineau, qui a gagné la médaille de bronze plus tôt dans la compétition avec l'équipe masculine de goalball. Et en fin de semaine, Fatima Abderrahman en boccia a terminé 4e dans la catégorie BC3 féminin et a aussi terminé en 5e place en double BC3 avec son partenaire Carter Plum. Il y avait aussi la nageuse Mathilde Falardeau, qui était aussi à cette compétition. Donc, bravo à tous ces athlètes.
Et puis, il y a Diane Roy, qui est intronisée au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec.
Oui, c'est ça. C'est une athlète en athlétisme. Elle a connu une carrière de plus de 20 ans sur la scène internationale là, en course en fauteuil roulant. Ça a commencé en 1994. Diane Roy a souvent été dans l'ombre de Chantal Le Petit-Clerc, qui gagnait à peu près toutes les médailles dans les courses qu'elle participait. Mais Diane Roy a quand même remporté 5 médailles aux Jeux paralympiques, dont une belle médaille d'argent aux 800 mètres lors des Jeux de Pékin en 2008. Elle a pris sa retraite en 2016 lors des Jeux de Rio et elle a aussi s'est illustrée lors des championnats du monde au cours de sa carrière. Elle a remporté 6 fois des médailles d'or et elle a aussi participé à plusieurs Jeux du Commonwealth ou des Jeux para-panaméricains. C'était une athlète qui s'illustrait surtout sur des longues distances, le 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, jusqu'au marathon. Donc, c'était une athlète de longue distance. C'était une athlète qui était très appréciée dans les équipes d'athlétisme lors des différentes compétitions internationales qu'elle a participé. On a commencé notre carrière internationale en même temps, là, en 1994, lors des championnats du monde d'athlétisme pour personnes handicapées. À ce moment-là, je l'appréciais énormément comme athlète et je suis très fier d'elle d'être maintenant intronisée au Temple de la renommée.
Et peut-être qu'un jour, ça va être un certain Dominique Tremblay qui pourrait être intronisé là, non?
Il manque une coupe de médailles aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde. Moi, j'ai juste une toute petite médaille aux championnats du monde. Je vais être quand même content là, d'être sur les lignes de côté et applaudir ceux qui le méritent vraiment. Et puis, ça va me faire plaisir de parler d'eux.
Ah ben, dans mon livre à moi, Dominique Tremblay, il est au Temple de la renommée de Canalem. Qu'est-ce qu'on en dit? Hein? C'est bon, ça?
Ah, c'est parfait, ça. J'accepte ça.
On va parler des Jeux paralympiques qui s'en viennent à Milan-Cortina. Il y a Alexis Guimond qui est nommé co-capitaine de l'équipe canadienne.
Oui, c'est ça. Donc, Alexis Guimond qui fait du ski para-alpin. C'est une nouvelle initiative du comité paralympique canadien qui pour les Jeux de Milan-Cortina qui vont débuter au mois de mars en 2026. Donc, il y a un capitaine pour chaque sport qui a été nommé. Et il y a un capitaine honoraire qui a aussi été nommé. C'est un retraité de para-ski alpin, Marc Marcoux. Donc, c'est une initiative là, pour donner du leadership à chaque sport pour motiver les athlètes et ainsi de suite. Ça va être aussi les porte-paroles pour chacun de leurs sports. Guimond se prépare pour ses 3e Jeux paralympiques d'hiver. Tout au long de sa carrière, il a été un des membres les plus constants de l'équipe. a remporté plusieurs médailles lors des championnats du monde ou des coupes du monde. Il a aussi remporté une médaille de bronze en super géant en 2022 et en 2018. 2022, c'était à Pékin et 2018, c'était à Pyeongchang, en Corée.
Reste à voir hein, si l'engouement pour les Jeux paralympiques, là, qui ont quand même commencé à être très populaires avec les Jeux de Paris, on va voir maintenant si ça va se poursuivre à Milan Cortina.
Oui, bien, Radio-Canada va diffuser quand même plusieurs heures là, de compétition. C'est évident là, qu'il y a seulement 6 sports aux Jeux paralympiques d'hiver, donc il n'y aura pas des compétitions mur à mur comme aux Jeux olympiques ou du moins durant les Jeux paralympiques d'été. Ouais. Nous, on devrait avoir une cinquantaine d'heures sur le site Internet de Radio-Canada et quelques émissions spéciales sur les ondes de Radio-Canada.
Oui, on va en parler, nous, c'est certain. Et on va terminer en rugby. C'est ça,
il y a une compétition internationale qui se déroule présentement là en République tchèque à Prague. Le Canada représente, c'est une compétition surtout, on va commencer par ça, c'est une compétition qui est réservée aux clubs ou des équipes spéciales. Le Canada est représenté par 2 équipes, donc l'équipe de développement du Canada. Il y a 5 Québécois sur l'équipe et ils ont remporté leur premier match 63-26 contre les Gunners, qui est un club de la République tchèque. Le Canada aussi, une équipe féminine de développement qui participe à la compétition là, dans une division inférieure. L'équipe s'appelle les Northern Lights et ont perdu leur premier match il y a quelques heures, 52-40 contre un autre club de la République tchèque. On leur souhaite bonne chance aux 2 équipes. La compétition se déroule jusqu'à dimanche et les matchs sont aussi diffusés là, en direct sur Internet, sur le site de l'Association canadienne de rugby en fauteuil roulant.
Wow, c'est toujours passionnant d'entendre les commentaires de Dominique Tremblay à cette émission. Merci beaucoup, Dominique.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Et la scène culturelle montréalaise s'apprête à célébrer le meilleur du cinéma 2LGBTQIA+, avec le retour d'un événement incontournable. Hein? On va dire iconique, comme diraient certaines personnes à RuPaul's Drag Race. Alors, nous accueillons Charlie Boudreau, directrice générale du festival Image Nation. Bonjour, Charlie.
Bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Je suis content de te reparler. 38e édition du 20 au 30 novembre.
Oui.
38e?
Oui.
Puis t'as commencé ça?
Non, j'ai pas commencé ça. Mais je suis là depuis longtemps. Je suis là depuis, soit la 3e édition. J'étais bénévole à la programmation à partir de 91 pour arriver à la direction en 96.
Fait que le cinéma, je pense que la pellicule se promène dans ton sang, c'est ça?
Ben c'est ça qu'on dirait.
On se connaît depuis longue date. Vous m'excuserez si je tutoie Charlie. On se connaît depuis tellement longtemps.
Alors après. J'espère qu'on se tutoie.
Après près donc 40 ans, pratiquement, 38 ans, Image Nation, c'est un véritable pionnier. Cette année, vous soulignez les voix LGBTQIA+ qui doivent être entendues, vues et partagées, surtout dans un moment historique qui ne favorise pas la différence. Alors pourquoi, après toutes ces années, la mission du festival devient à nouveau ou devient plus pertinente que jamais là, en 2025?
Ben, c'est un peu utiliser des tropes, comme on dit en anglais, mais la représentation est importante. De se voir à l'écran, que les autres nous voient à l'écran, est crucial pour qu'on bâtisse ensemble une société inclusive, une société où nos droits sont respectés, les droits de tout le monde sont respectés. Et comme tout le monde le sait, on est dans, c'est pas la première fois dans l'histoire, on est dans un virement historique où les droits des personnes LGBT sont en train tranquillement d'être érodés. Donc, pour moi, je pense qu'on est d'accord, c'est important d'avoir un festival dont l'objectif unique et d'apporter ces voix-là, ces histoires-là au public, pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit partagée, pour découvrir, pour voyager, pour découvrir la vie d'autres personnes à travers le monde aussi. Donc, on est là pour vous autres cette année.
Ben, on va commencer. Donc, le festival débute le jeudi 20 novembre avec un film qui s'appelle Bloodlines de la réalisatrice canadienne Gail Morris. C'est un film qui met en lumière les histoires autochtones et indigiqueer. Alors, parlez-moi un peu de ce choix et de l'importance du volet, donc Spotlight, là, voix autochtone, indigiqueer voices.
Ben, y a un autre moment historique, mais un bon cette fois-ci.
Oui.
Pour la première fois de notre histoire, on avait un nombre élevé de soumissions de films autochtones, ce qui est absolument queer, évidemment, ce qui est merveilleux. Donc, il semblait naturel d'en faire un focus et de mettre de l'avant ces voix-là qui sont, comme on dit, sous-représentées en général dans la culture mainstream. Et d'apporter ces voix-là, mettre ces voix-là de l'avant. Il y a quatre films et un programme de cours qui parle de différentes perspectives parce qu'il y en a plusieurs autochtones. C'est pas un bloc,
ouais.
C'est plusieurs communautés. Donc, on apporte plusieurs perspectives de différentes communautés autochtones. C'est vraiment une occasion extraordinaire pour les gens de découvrir ces histoires-là et ces films-là. Et le film d'ouverture, si on s'arrête juste à celui-là, parle d'une perspective métisse. Et la merveille, c'est que Gail sera là avec les comédiennes. Donc, ça va être une belle discussion, une belle soirée pour découvrir non seulement ce merveilleux film qui a eu sa première au TIFF. On a, je crois, la deuxième projection. Je vais oser dire ça, mais au moins la première québécoise du film. Et donc, c'est l'occasion de le voir et de discuter avec l'équipe.
Oui. Cette programmation quand même a 125 films de 38 pays, si je ne me trompe pas. Alors, au-delà des voix autochtones, quels sont les autres faits saillants que le public devrait absolument voir ou ne pas manquer, là, que ce soit de partout, mais du Québec aussi?
Mais là, c'est toujours la question difficile. Tout est à pas manquer.
Ben
tu
oui.
sais bien, je vais répondre ça.
Mais j'aime ça poser la question parce que ça te met toujours sur la sellette. Hein?
Ah oui, t'aimes ça, toi. C'est comme quand je ne peux pas répondre pour les goûts des gens, on en a pour tous les goûts.
C'est vrai.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les films en focus pour guider un petit peu les gens. Par exemple, il y a une section Zeitgeist qui est une nouvelle section qu'on a créée l'année passée qui sont des films un peu comme qui présentent le moment présent.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un focus voix on l'a changé cette année, c'est pour ça que je me souviens plus du titre. Québec en vue.
Ouais.
Où on a une présentation de On sera heureux, on sait qu'il est en salle, mais nous ce qu'on fait c'est qu'on présente le film avec une conversation avant le film avec Michel-Marc Bouchard et Léa Poul.
Oui.
Rappelons que la première édition d'Imagination avait le premier film de Léa Poul.
Ah ouais, d'ailleurs,
comme on dit, un bookend, là.
J'ai invité Léa Poul à mon autre émission que j'anime ici. Là, on se croise les doigts parce que je veux vraiment qu'on parle de ce film. On sera heureux, oui, effectivement.
C'est une belle occasion. C'est pas juste de parler. Quand on a des conversations avec les gens, c'est pas de parler du film. Oui, on va parler du film, évidemment. Mais c'est aussi de parler de leur carrière, de leur perspective, de la vision qu'ils apportent. Puis Michel-Marc Bouchard, évidemment, on le connaît. La vision que ces personnes-là apportent à une représentation médiatique. Et dans ce cas-ci, on a un grand écrivain qui rencontre une grande cinéaste. Donc, ça va être une super belle conversation. On a Focus Médo Canada, les films canadiens, Focus québécois, il ne faut pas oublier, je viens de mentionner, mais il ne faut pas oublier le fameux Queerment Québec,
oui.
qui cette année, date ses 25 ans.
Quand même!
C'est 25 ans,
wow. Alors, Queerment Québec, ça nous présente quoi? Des courts longs-métrages?
Le Queerment Québec, c'est un programme de courts-métrages.
Courts-métrages.
Parce que le Québec excelle en court-métrage et en long-métrage aussi, là, mais a toujours excellé en court-métrage. Et les petites histoires, puisque le fun, c'est souvent des histoires régionales. C'est pas juste toujours basé à Montréal, comme souvent on va voir dans le cinéma queer, qui sont toujours urbains. On cherche les histoires à l'extérieur aussi. Donc, une merveilleuse soirée qui va avoir une petite surprise, mais là, je te fais le scoop.
Oui.
On fait une petite rétrospective des 25 ans. Donc, on présente un nombre sélect parce qu'on a déjà une soirée bien remplie avec les films de cette année, de films qui nous ont amenés aux 25 ans. Et pour les gens qui ne le savent pas, peut-être, Gourmand Québec, c'est notre soirée aux filles. Qui est très spécial, c'est vraiment à l'honneur des cinéastes. Donc, on présente des films et entre des blocs de films, on amène les cinéastes sur scène, on discute du film, les cinéastes parlent entre eux, et évidemment, on parle avec le public de ce qu'on vient de voir. Fait que c'est une soirée chill, le fun, pour découvrir les nouvelles voix québécoises et pour se parler entre nous.
J'aimerais te faire parler du film de clôture, Jim Pas. Alors,
Tu
qu'est-ce
veux
que
que je, tu veux que j'en parle?
oui, parle-nous de ce film.
OK, ben c'est un film avec John Lithgow et Olivia Colman. Et pour les personnes qui se souviennent plus ou qui cliquent pas, c'est qui Olivia Colman? The Favourite, La Reine,
Ouais.
et bien d'autres choses. Donc, c'est un film vraiment intéressant pour une clôture parce que ça représente un peu tous nos valeurs. C'est un film basé sur la famille, mais donc on a le côté intergénérationnel et aussi la nouvelle personne, l'enfant, qui est non-binaire, qui se questionne sur son identité et tout ça, qui rencontre son père, John Lithgow, qui lui est un activiste d'un certain âge, très engagé. Donc, on a des conversations intergénérationnelles qui sont vraiment du jour, comme on dit, et qui apporte une nouvelle perspective à nos réflexions. C'est un excellent film.
Puis, est-ce qu'on peut dire un mot sur la première mondiale de la série Rivalité brûlante qui sera diffusée sur Crave?
Oui, c'est notre première mondiale de ce qu'on
Oui.
appelle Heated Rivalry en anglais, rivalité. C'est rivalité passionnante
Ah,
maintenant.
passionnante. OK, je l'avais mal traduit. D'accord.
Et puis, bon, on invite, ben là, je te fais un scoop aussi, là.
Oui.
On invite les stars du film avec quelques autres stars pour cette fameuse première mondiale. Ça va être une super belle soirée. Et on a l'autrice du livre sur laquelle la série est basée également, Rachel Reed, qui a un très gros fan club. Donc, c'est une soirée où on voit le premier épisode de la série, mais c'est surtout une soirée, comme on dit, de monde. C'est une soirée qui est basée sur les invités aussi et les conversations qu'il va y avoir autour du film. Et moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'on va avoir la personne qui a adapté le livre, la personne qui a écrit le livre. Ça va être bien animé et bien intéressant.
Ça va être certainement à ne pas manquer. On va parler de la relève parce que, imagination, cette année, vous avez toujours une soirée étudiante, hein, et en même temps, vous allez aussi parler de l'histoire, hein? Non, pas de soirée étudiante cette année?
Notre première soirée
Votre
étudiante.
première, je pensais que c'était à chaque année que vous aviez ça.
Non. Ben,
Ah!
tu penses que tu penses peut-être à. Non, non, c'est la première fois qu'on a une soirée étudiante.
Ouais, je pense que je mêle avec toujours les courts-métrages, puis il y a toujours des nouvelles personnes. Oui, c'est vrai.
Oui, non, c'est une première chez nous,
Oui.
soirée étudiante. Donc, ça veut dire on a recueilli les films queer faites par des étudiants et étudiantes à travers les universités et les cégeps cette année pour avoir justement cette première soirée pour découvrir la nouvelle vague de voix, les nouvelles voix québécoises. C'est une soirée aussi qui est suivie d'un petit party. Un petit party. Tout ça se passe à l'ONF. Donc, il y a une salle de projection et aussi une salle en bas dans l'espace ONF. Où on va pouvoir rencontrer les gens, jaser et tout ça. C'est une super belle occasion de découvrir les nouvelles voix.
Et puis, on va parler d'histoire aussi, si je ne me trompe pas. On parle donc le groupe Intervention vidéo, ça se peut-tu, si j'ai bien lu?
Le groupe d'intervention, oui, on a quelques moments historiques de Montréal. Le GIV, le groupe d'intervention vidéo, fête ses 50 ans. Donc, l'occasion de, encore là, une rétrospective de ces 50 ans-là, avec conversation avec les gens qui ont fait la curation et quelques cinéastes. Ça, c'est à l'espace ONF et c'est gratuit.
OK.
Il y a aussi, avec les Archives gays du Québec, on a un extrait de la série Émergence du village. Et c'est trois extraits qui parlent de moments historiques de l'émergence du village, de l'histoire du village, qui a lieu au cinéma public et aussi c'est gratuit, avec comme invité les personnes qui sont dans les clips,
Ah
dans
oui.
les vidéos. En fait, pour avoir, bon, on les a entendus, mais là, on peut avoir une conversation avec eux.
Oui, puis il faut dire hein, que les archives gays sont vraiment à l'honneur cette année parce qu'il y a une pièce de théâtre aussi qui s'appelle Corps fantôme chez Duceppe qui est beaucoup basée
Ah.
sur les recherches aussi de ce qui se passait dans le village il y a peut-être 30 ans de ça. Est-ce qu'on peut parler aussi?
Est-ce que tu me permets 2 petites
Oui,
secondes sur
vas-y.
l'histoire? On a Montréal, mais on a aussi d'autres films qui parlent de l'histoire. On a un film qui s'appelle Beautiful Evening, Beautiful Day, ou Beautiful Day, Beautiful Evening, qui parle de l'histoire de la Yougoslavie, qui
Ah
ne
oui.
s'appelle plus Yougoslavie, on le sait, mais c'est un moment historique du changement des régimes en Yougoslavie et comment ça a pu affecter la vie des personnes gays. History of Sound aussi nous amène dans le passé. Et il y en a un autre, mais on va le découvrir dans la section Focus sur notre site web.
Ben justement, le temps passe, mais j'aimerais qu'on parle aussi du fait que votre festival est accessible. On peut, au-delà de Montréal, en profiter. Comment on peut faire ça?
Oui, c'est clairement indiqué. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre la belle tradition d'avoir tout en ligne qui nous avait amené COVID,
Ouais.
mais on met tout ce qu'on peut sur le site Internet disponible en virtuel. C'est clairement indiqué sur le site, virtuel ou en salle. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'est-ce qui est disponible en virtuel. Et tout le contenu québécois est disponible en ligne. Surtout Queerment Québec en 2 versions, et le contenu canadien pour la vaste majorité est disponible à travers le Canada en ligne.
Oui, je sais, on m'a envoyé le lien déjà, ça fait que je vais me mettre là-dessus ce week-end. Allez, journalistes, on a des petits accès privilégiés, hein, ça arrive. Charlie Boudreau, ceux qui veulent se procurer des billets pour plus d'informations, donc c'est sur votre site web,
Oui.
Image Nation.
www.image-nation.com. ORG.
Ah, Charlie Boudreau, c'est toujours un plaisir de te recevoir, directrice générale donc de Imagination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis bon festival.
Merci beaucoup de l'accueil et bon festival à toi aussi et à tout le
Merci.
monde qui écoute.
Merci. J'ai le temps de faire une petite brève. Je peux vous parler donc de science-fiction, hein, selon Le Devoir, qui est déjà une réalité discrète, les neurotechnologies qui pourraient s'avérer aussi révolutionnaires que l'intelligence artificielle, mais souvent moins médiatisées. Ces avancées incluent des appareils électroniques implantés dans le système nerveux qui permettent déjà de traduire la pensée en mots et faire remarcher les personnes paralysées grâce notamment à la miniaturisation et l'apport de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'il y a des préoccupations au niveau éthique. Alors, c'est à suivre. Et mon Dieu, que le temps passe vite. Je voulais donc vous remercier tout le monde d'avoir été à l'écoute, remercier l'équipe qui travaille avec moi ici à cette émission, notamment Mathieu Tessier, mais aussi Hélène Denis, parce que même si elle est absente, elle m'aide beaucoup à la recherche. Elle me laisse pas tout seul sans aucune aide, parce que quand on remplace, hein, c'est souvent à pied levé. Je serai de retour lundi. Donc, à ce micro, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Restez des nôtres à Canal M, où il y a beaucoup, beaucoup de belles émissions à écouter. Au revoir.